On recommence cet après-midi avec une autre thématique, transport, quelle perspective, avec l'intervention d'Arnaud Passalacqua qui va nous parler de l'histoire de la mobilité, innovation, crise et transition. Donc je remercie encore Arnaud d'être venu pour la seconde fois à l'Espace Mendès France. C'est-à-dire que quand on commence à venir à l'Espace Mendès France, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, je vais vous présenter. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris Diderot. Vous avez une double formation ingénierie, c'est pont et historien, et vous intéressez à l'histoire de la mobilité dans le cadre du renouvellement que connaît l'histoire des transports à l'échelle internationale depuis quelques années. Vos travaux se sont d'abord centrés sur la mobilité urbaine à Paris et à Londres, puis dans d'autres villes européennes, Rome et Lyon. Vous travaillez aussi sur d'autres systèmes et à d'autres échelles, notamment sur la réforme ferroviaire de 1997 qui a donné lieu à la création de la RFF. Enfin, vous êtes impliqué dans le développement d'un laboratoire interdisciplinaire portant sur les énergies à Paris Diderot et responsable du projet de spécialité de M2 qui lui est associé énergie, écologie, société. Donc il y a toutes les raisons que vous soyez chez nous et on est ravis de vous entendre. À tout à l'heure.
Merci beaucoup. Oui, c'est un projet de spécialité de M2 qui, en fait, en septembre, sera plus qu'un projet puisque nous accueillerons notre première promotion d'étudiants de M2 de sciences humaines et sociales qui souhaitent venir vers le monde des énergies et discuter avec les gens des sciences dures qui en font. Alors, je vais vous proposer d'introduire, mon intervention est en fait une introduction à ce thème des transports, qui est évidemment l'un des thèmes phares lorsqu'on parle des questions énergétiques, des enjeux énergétiques d'aujourd'hui. Alors, au-delà des questions quantitatives, le transport focalise énormément l'attention, l'opinion publique, sur les questions énergétiques. D'une part. D'autre part, nous avons probablement le sentiment aujourd'hui d'être face à des défis, des enjeux énergétiques qui sont plus forts qu'auparavant. Nous avons le sentiment que nous sommes en train de vivre des transitions dans ce monde de transport, des transports et de leurs énergies. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on m'a invité, c'est d'essayer de comprendre que les transitions dans le monde des transports, c'est quelque chose qui est finalement courant. Nous en avons connu déjà plusieurs. Il y en a qui se sont plus ou moins bien passées, qu'elles donnent lieu à des innovations, on va dire. Et puis, évidemment, qu'elles se vivent dans des périodes, des moments... elles peuvent se vivre dans des moments de crise, mais aussi des moments d'enthousiasme. On va essayer de voir un peu les deux. Donc, je vais pour cela vous parler essentiellement et uniquement de transports urbains, avec un lien assez fort entre transports urbains et urbanisation des villes industrielles, à l'époque industrielle. Donc nous verrons les villes, nous allons naviguer en plusieurs étapes dans la ville industrielle qui a été tout au long du 19e une ville fondée notamment sur une énergie hippomobile, le cheval, énergie renouvelable s'il en est, qui a assuré les mobilités urbaines pendant, on va dire, presque la moitié de ce qu'on appelle l'ère industrielle au final. Alors, la petite illustration de la première diapo est une transition incarnée par ce passage entre un omnibus hippomobile, celui que vous voyez sur votre droite, avec trois chevaux. Et puis, à sa gauche, vous voyez ce qui est l'autobus, l'omnibus à moteur. Nous nous situons donc au tout début des années 1910, 1911, 1912, lorsque sur la principale ligne de transport parisienne de surface à l'époque, celle qui va sur les longs des grands boulevards, de la Madeleine à la Bastille, ultra chargée, ultra fréquente, on passe du cheval au moteur. Et vous le voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, au fil de l'équipement de la compagnie, on va substituer progressivement les omnibus par des autobus. Et donc, pendant quelques semaines, vous avez soit un omnibus à cheval, soit un autobus qui passe sur la ligne quand vous l'attendez. Donc on a cette scène où on a aussi un passage de relais entre un cocher, cette figure-là qui disparaît en fait, et puis le machiniste qui est son successeur avec d'autres qualités, d'autres vertus, d'autres formations. Alors, quatre périodes pour essayer de comprendre comment est-ce que le monde des mobilités urbaines a déjà connu un certain nombre de transitions énergétiques ou des transitions entre systèmes techniques. Je vais d'abord faire un retour sur le lien intrinsèque qu'il y a entre les villes de l'ère industrielle et les transports collectifs. Deuxième moment, on se centrera sur un moment de forte transition, de basculement important, qui est ce qu'on appelle la belle époque, on va dire, hein, où les transports urbains, les différents types de transports urbains, basculent vers la motorisation. Mais on va voir qu'il y a tout un tas d'enjeux dans cette motorisation, quelle forme de motorisation. Rien n'est stabilisé à cette époque-là, et il y a pas mal de déterminants aussi sociaux derrière les choix d'énergie pour tel ou tel type de transport, tramway, omnibus, etc. On verra après, rapidement quand même, et pour introduire la dernière partie, le basculement vers l'automobilisation de la société européenne, donc plutôt l'après-Seconde Guerre mondiale, avec quelques éléments sur cette transition. Et puis, alors c'est là où on voit que les versions entre OpenOffice et PowerPoint ne sont pas toujours bonnes. Nous verrons comment est-ce que nous sommes entrés dans des crises de l'automobilisme, crise au pluriel, et de multiples transitions qui s'offrent à nous, qui sommes ou avons été tous automobilistes, vers d'autres formes, d'autres systèmes de transport liés aux énergies, mais liés aussi aux pratiques. Alors, première partie, on va se replonger dans les origines finalement de la ville industrielle, et un basculement des principales villes européennes vers un mode de vie industriel, un fonctionnement industriel, une urbanisation qui s'étend, une intensification de l'utilisation des espaces, etc. Et tout cela marche en simultané avec l'invention des transports urbains. Et alors, ça se joue, en fait, ce basculement va se jouer dans l'abandon d'un certain nombre de systèmes et puis dans l'adoption de nouvelles formes de mobilité. Alors, les systèmes en perte de vitesse, ce sont les canaux, les diligences, les canaux qui étaient pourtant hein, la modernité sous Napoléon, pour faire vite. Ces systèmes anciens, on va avoir tout un monde socio-technique qui va basculer vers autre chose, vers le chemin de fer, vers la navigation à vapeur. Et pour ce qui concerne les villes, nous allons avoir l'introduction de systèmes collectifs de transport omnibus, inventé à Nantes en 1826, qui arrive à Paris en 1828, qui arrive à Londres en 1929, qui se diffuse à l'échelle européenne et aux États-Unis très rapidement. Et si ça se diffuse aussi rapidement, c'est parce que ce système de transport collectif correspond à un nouveau besoin. Vous avez un nouveau marché avec de multiples compagnies qui vont uniquement privées, hein, qui vont ouvrir des lignes, se battre sur les mêmes lignes souvent, et concrètement d'ailleurs avec les fouets, etc., pour récupérer la clientèle. Et l'omnibus devient la principale système de transport de ces villes qui en ont besoin puisqu'elles s'étendent et elles se densifient dans leurs activités. Le tramway, c'est le dérivé finalement ferroviaire de cet omnibus qui est d'abord introduit à New York en 1932 et qui, on va en parler un petit peu, se diffuse surtout aux États-Unis et puis après un peu en Europe. Ces villes connaissent donc, en même temps qu'elles connaissent un basculement dans leur paysage urbain, on va bientôt tomber dans l'haussmannisation, etc., elles connaissent également cette révolution des transports, mais qui reste pour les transports urbains, hein, des transports hippomobiles. Tout cela s'appuie sur un certain nombre un contexte, on va dire, économique, politique, et une culture, on va dire, d'un certain nombre d'élites d'ingénierie financière qui font que la notion de mobilité se trouve assez centrale dans la conception de la société. Et nous avons le développement d'un esprit, dans le cadre français du saint-simonisme, hein, de ce qui accompagne notamment... ici, vous avez Michel Chevalier, qui est conseiller de Napoléon III. Donc toute cette idée d'un développement à la fois encadré et à la fois libéral, finalement, d'activités économiques dont la vertu doit être qu'elles produisent de plus en plus de richesses, de paix, de connaissances, sur un mode libéral, mais à tous les sens du terme, en fait, avec de nombreux aussi échanges avec le milieu financier qui rend possible cet essor des transports. Alors d'abord, évidemment, plutôt ferroviaire, extra-urbain, Mais bien sûr, le métro, par exemple, va être une œuvre aussi fondamentalement liée aux investisseurs et aux enjeux capitalistiques, enfin, à la possibilité d'investir sur le long terme grâce à une structure financière qui est un peu cachée. Quand on regarde les transports, on n'y pense pas forcément. On a donc une connotation extrêmement positive de la mobilité qui se fonde à ce moment-là et également de cette vitesse qui s'accroît régulièrement. Autre élément qui se met en place à ce moment de milieu 19e, dirons-nous, c'est ce que sont ces transports en commun. Ce sont des transports en commun, c'est-à-dire que c'est des lieux nouveaux. Des lieux nouveaux où les gens vont monter sans savoir qui ils rencontrent à bord. Vous montez à bord d'un omnibus, il y a très peu de place parce que c'est tiré par un cheval, enfin plusieurs chevaux, et donc c'est des chevaux qui n'ont pas beaucoup, enfin ils ont leur capacité de cheval, donc ça réduit le nombre de places à bord, et ça veut dire que les omnibus sont souvent complets, et que quand vous avez la chance d'avoir une place, ben, vous ne la choisissez pas. Et il n'y a que des places assises, hein, pas de place debout. Donc ça donne lieu à de multiples caricatures, de Daumier ou d'autres, de type de celle de droite, c'est-à-dire la fameuse figure de la grosse dame qui monte et qui doit trouver sa place à côté des uns et des autres. Mais vous avez ici tout un tas de portraits sociaux de gens que vous trouvez à bord de ces omnibus, avec leurs odeurs, avec leur vocabulaire, avec toute l'altérité que vous allez y rencontrer. C'est-à-dire qu'on a ici une confrontation tout à fait nouvelle et les gens sont en plus assis en deux rangs, l'un face à face, en face à l'autre. Donc vous avez également toute cette habitude du regard, etc. Ce qui va se jouer au milieu du 19e, on le retrouve à Paris, on le retrouve à Londres, c'est la connotation sociale qui va se différencier entre les omnibus et les tramways. L'omnibus va devenir un mode plutôt de classe moyenne, moyenne supérieure, assez cher, et donc réservé à des gens qui peuvent se l'offrir, et plutôt de centre-ville. Le tramway, au contraire, va être, comme c'est un mode qui permet de mettre plus de monde à bord, puisque vous avez moins de frottement avec les rails, vous pouvez baisser les tarifs. Et donc vous pouvez l'ouvrir à des populations qui n'ont pas accès à l'omnibus. Donc va se jouer toute une connotation sociale du tramway qui va être en fait plutôt reléguée en périphérie, donc plutôt associée aux habitants de la périphérie, c'est-à-dire à des gens qui sont moins aisés. Et en plus, les tramways vont développer des modes ouvriers, enfin des tarifs ouvriers plutôt, etc. Donc ils vont s'adapter à cette population. Et donc le tramway va être connoté comme mode du dimanche, puisqu'en banlieue, en périphérie, donc on va se mettre au vert en tramway, et puis mode ouvrier. Tout ceci, jusqu'à la Belle Époque, sur laquelle je vais revenir après, fonde sur le cheval. Le cheval, c'est une force motrice animale qui est disséminée dans la ville partout. Vous avez des tas d'écuries, en fait, pour faire fonctionner ce système. Des écuries, ici vous en avez à droite, avec des étages dans des bâtiments. Alors ça pose des tas de soucis de chaleur, d'évacuation évidemment des crottins de cheval, etc. Avec des grandes pentes pour monter à l'étage, hein, le cheval il monte pas les marches. Et c'est également tout un système en coulisses qui se trouve de champs, de haras, de systèmes de reproduction de vos chevaux, de repos de vos chevaux, parce que c'est extrêmement fatigant. Et les chevaux meurent jeunes. C'est un capital un peu compliqué, le cheval, parce que les maladies sont possibles. Et puis, vous voyez, donc on a des figures comme celle du cheval côtier, le cheval noir, là, bien sûr, qui est noir face aux chevaux blancs. Le cheval côtier, c'est celui qui attend au bas des côtes l'omnibus qui arrive, l'omnibus surchargé que vous voyez arriver. Et puis, il aide pour monter la côte. Et puis après, il redescend et il est tenu par un agent, hein, que vous voyez, qui est aussi fatigué que le cheval. Donc on est sur un système qui a une certaine expertise. Il y a de la technique derrière tout ça, il y a des champs, etc. Mais qui a quand même un certain nombre de fragilités également. Alors, tout ceci va basculer dans tout à fait autre chose au niveau énergétique et donc aussi au niveau des pratiques de mobilité dans les années 1890 à 1914. Alors c'est là où oui, la mise en page ne va plus. Alors plusieurs dynamiques de motorisation vont se développer dans le cadre de ce qu'on appelle en fait la seconde révolution industrielle ou industrialisation, l'électricité, hein, qui émerge véritablement lors de l'exposition internationale de Paris en 1881, où on voit l'application de l'électricité à des systèmes mobiles, de type des ancêtres de ce qu'on appelle les trolleybus finalement. La déclinaison principale de l'électricité va être en fait le métro, hein, appliqué au métro, et c'est dans ces années 1890 à 1914 que beaucoup de grandes villes européennes et nord-américaines vont s'équiper d'un métro. La principale étant Paris en 1900, et elle rattrape là la ville qui a inventé le métro, qui est Londres, 1863. Mais le premier métro londonien est un métro à vapeur. Donc vous avez des espaces d'ailleurs pour échapper les fumées, encore visibles aujourd'hui. L'électricité et le métro, c'est un succès extrêmement rapide, de masse, de une fréquentation. Donc ici, j'ai un petit graphique qui montre la création du réseau parisien. En 15 ans, on crée 100 km de métro à peu près, 10 lignes, et on passe donc de 0 à 400 millions de voyageurs par an. Donc c'est quelque chose qui est un énorme succès extrêmement rapidement. Face à cela, les transports existants sont contraints de réagir. Alors, la réaction, elle s'opère pour Paris autour de l'exposition universelle de 1900. Il y a eu plusieurs expositions universelles auparavant où, à chaque fois, il y avait beaucoup de visiteurs et les transports craquaient. Le système du cheval, ça ne marchait pas bien. Et du coup, pour celle de 1900, les autorités parisiennes se sont dit « Bon, il faut quand même qu'on essaye de répondre. » Donc, il y a le métro comme réponse, mais... Les visiteurs de 1900, ils voient que la ligne 1 n'est même pas finie, hein, ouverte en juillet 1900. La vraie réponse, ça va plutôt être le tramway. Les tramways motorisés. Et alors, les tramways motorisés, la veille de 1900, de l'exposition universelle, il y a beaucoup de voies possibles pour cette motorisation. Et vous avez donc tout un tas de formes de motorisation pour des lignes différentes dans une même ville. Vous allez avoir donc des tramways à vapeur, ce qui n'est pas très pratique, c'est pas très souple, c'est très gros, ça fait peur aux chevaux. À air comprimé, celui-là, c'est à air comprimé. Donc on change les bonbonnes d'air à chaque terminus. Et puis ils détendent de l'air pour avancer. Et puis différentes formes d'électrification aérienne et par le sol. Hein, ici, vous avez un système dit en caniveau, c'est-à-dire un rail central. Alors, il y a tout un discours anti-tramway qui s'est déployé. Le tramway connoté ouvrier est refusé dans les espaces bourgeois. L'argument principal, c'est l'esthétique. C'est-à-dire le tramway, avec son alimentation aérienne, va nous gâcher notre esthétique. Une esthétique qui est pourtant toute neuve, c'est l'haussmannien. Et en fait, du coup, le tramway est contraint de déployer tout un tas de formes de motorisation, d'énergie, enfin énergétique, qui ne sont pas optimales, parce que l'optimum pour un tramway, c'est l'alimentation aérienne. Ça coûte pas cher en maintenance, ça capte bien l'électricité, etc. Et donc, du coup, il a beaucoup d'entraves qui lui sont mises devant lui. Et il y a une atomisation du monde du tramway. Il n'y a pas d'unification, de standardisation. Au contraire, chaque compagnie va déployer sa propre solution pour éviter d'avoir à mettre des lignes aériennes qu'on lui interdit. Ça donne ceci, ce rejet social du tramway. Ça, c'est Londres. Ce que nous pouvons voir, c'est le plan de tramway de Londres dans les années 20. Vous observez évidemment qu'il y a tout un quartier ici, un énorme quartier où il n'y a pas un seul tramway, qui est le quartier le plus bourgeois de Londres, autour de Hyde Park, ici, et de Buckingham, etc. Hein, ce quartier, c'est pas qu'il n'y a personne qui utilise les transports, loin de là, il y a du monde. Il y a même des gens qui viennent y travailler hein, pour la domesticité. Mais on n'a pas on a un refus du tramway pour des raisons sociales. À Paris, on a ce même genre de schéma qui est un peu moins clair. À Londres, il est assez évident. Alors, bien sûr, l'autre révolution parallèle qui se joue dans les villes de cette belle époque, c'est l'arrivée de l'automobile. Arrivée de l'automobile... qui, elle aussi, n'est pas stabilisée sur ses formes énergétiques. Vous avez de multiples automobiles avec de multiples formes énergétiques. Vapeur, hein, ce qu'on appelle les locomotives routières par la suite, le thermique, mais qui n'est pas très fiable. Hein, le thermique, c'est sale, c'est pas fiable. Ce qui marche pas trop mal en ville, c'est l'électrique. Alors cette image est assez connue, hein, celle de la première automobile à dépasser le 100 km/h, celle qu'on appelle la jamais contente, qui est une voiture électrique, 1899. Deuxième voiture électrique moins connue, c'est ceci. C'est un taxi new-yorkais. Les taxis à New York, les fiacres à New York, abandonnent le cheval pour passer à l'électricité. La même chose à Paris. Des compagnies privées, hein, il n'y a pas du tout de volonté publique de faire plutôt telle ou telle énergie, c'est vraiment des compagnies qui font leur choix. Et pendant quelques années, donc en fait un marché de niche où les conducteurs de taxis peuvent changer leur batterie dans des sortes d'entrepôts, enfin de hangars. Et l'électricité est extrêmement crédible, elle est propre en plus. C'est-à-dire que dans un monde où l'hygiénisme est une valeur forte, on a cette vertu de l'électricité. Et c'est un monde où, par exemple, on organise, pour ces nouveaux véhicules qui vont vite, on organise des concours de pare-boue. On essaie de voir lequel fait moins de boue, etc. Donc on est vraiment dans une quête de l'hygiénisme qui passe notamment par l'attribution d'une certaine crédibilité à l'électricité. Et le dernier, historiquement, qui arrive, c'est celui qui est un peu plus ringard, hein, en fait, celui qui est l'omnibus, qui, face au tramway, il est plus lent, face au métro, il vaut plus rien. Les compagnies d'omnibus vont basculer elles aussi vers un autobus, c'est-à-dire un omnibus motorisé, en faisant des concours. Alors à Paris, en 1905, la compagnie monopolistique va organiser un concours où vont conquérir des autobus électriques, thermiques, et puis ce qu'ils appellent pétroléo-électriques, c'est-à-dire une sorte de mode hybride entre les deux énergies. Le plus efficace s'avérera être le thermique, un mélange de différents carburants, et si bien qu'en 1914, là c'est 1913, il n'y a plus un seul omnibus à cheval. Tout est basculé du côté du moteur, à Paris comme à Londres. Donc les plus grandes flottes hein, européennes. Et c'est ces autobus tout neufs qui iront faire la guerre de 14, puisque l'armée va immédiatement réquisitionner environ 3000 autobus à Paris comme à Londres pour aller sur le champ de bataille, transférer les soldats, etc. Alors même qu'elle ne dispose de rien, puisqu'en fait le cheval avait un tel prestige dans l'armée qu'elle avait très peu basculé elle, pour, vers le côté motorisé. Alors, le paysage modal, l'ensemble du système de transport des villes, des plus grandes villes européennes, les autres suivent, on va dire, il est bouleversé. La veille de la guerre de 14, on a une motorisation tous azimuts, on a avec ça la disparition du cheval collectif, le cheval, on va dire, individuel, privé, disparaît plutôt dans l'entre-deux-guerres, et on a surtout des gens qui vont beaucoup plus utiliser leur système de transport. Ils vont l'utiliser autant que ce que font aujourd'hui les habitants des grandes villes, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. En moyenne, vous utilisez les transports collectifs. Et ça, c'est quelque chose une grosse évolution dans les pratiques urbaines. Ils deviennent un peu dépendants de ces réseaux. De même qu'ils deviennent dépendants d'autres réseaux qui s'établissent à ce moment-là, le gaz, etc. Et puis, par ailleurs, cette motorisation va de pair avec, en fait, la focalisation sur la vitesse, puisque cette motorisation permet des nouvelles vitesses. L'omnibus était 8 km/h à peu près, hein, dans les bons jours. Progressivement, l'autobus, ça va être 20, 24, 30, etc. Et on va avoir donc une focalisation sur la vitesse qui naît à ce moment-là, et puis une focalisation sur les systèmes ferroviaires, c'est-à-dire que comme on se focalise sur la vitesse, les politiques publiques vont se focaliser sur le fait que plus ça va vite, mieux c'est, plus la capacité d'emport est grande, mieux c'est, et donc la meilleure solution devient progressivement le système ferroviaire, le métro. L'idéal devient le métro. Alors, je bascule maintenant du côté d'une autre transition qui est celle plus rapide, on va dire, de l'automobile. Alors, elle se joue en Europe bien après celle des États-Unis. Hein. Aux États-Unis, l'automobile est banalisée dans les années 20. Vous avez des gens, tout le monde peut avoir son automobile. En Europe, c'est quelque chose qui reste élitiste pendant l'entre-deux-guerres. Ultra élitiste avant la guerre de 14 et élitiste pendant l'entre-deux-guerres et qui ne se démocratise que dans les années 55-65, mais très rapidement, mais que dans ces années-là. Donc on a une explosion du trafic automobile, de la première motorisation, puis après de la double motorisation des foyers, la bimotorisation, et qui se fait, c'est une forme de transition, dont les victimes sont ceux dont j'ai déjà parlé, l'autobus par exemple, hein, qui va se décroître. C'est une transition qui se fait dans, sur un mode économique, évidemment, de forte croissance, mais qui n'est pas sans rappeler celui de la Belle Époque, où il y avait aussi une très forte croissance, et où s'ils ont construit 100 km de métro en 15 ans, c'est parce qu'il y avait de fortes capacités financières. On a donc également cette révolution de la démocratisation de l'automobile, elle se joue aussi sur les modèles, l'évolution des modèles au sens des modèles de voitures, qui deviennent accessibles. On a l'automobile pour tous, hein, la 2 chevaux, la 4L, etc., qui deviennent des vecteurs de cette forme de démocratisation. Alors, cette démocratisation, elle est, ce qui est assez fascinant, c'est que l'automobile est un objet tout-terrain, vendu comme tel, hein, la 2 chevaux, c'était dans son cahier des charges, de pouvoir être à la fois à la campagne, en ville, etc. Et en fait, cet objet tout-terrain va notamment trouver son lieu d'expression en ville. C'est peut-être quelque chose d'assez étonnant, puisqu'en ville, il y avait déjà un certain nombre de transports dont j'ai déjà parlé, bien établis. Et pour autant, elle va s'y implanter et même jusqu'à profondément changer l'espace public urbain avec... évidemment un écho dans l'urbanisme moderne, hein, qui s'exprime, on va dire, enfin, puisqu'il était essentiellement théorique avant la Seconde Guerre mondiale, il s'exprime par la suite, soit des choses extrêmement d'application d'une théorie du modernisme, soit des choses beaucoup plus pragmatiques, à savoir la réduction des trottoirs, l'élargissement des voies, de la voirie, etc., au profit de l'automobile, qui se joue un peu partout. Le paysage modal, c'est-à-dire les systèmes de transport, eux, vont... être aussi transformé. C'est la grande époque du démantèlement des tramways. Je n'ai pas le temps de parler beaucoup plus de ça, mais toutes les villes françaises, sauf trois, vont démanteler tous leurs tramways dans ces années-là. Pour rester, il ne restera plus que trois lignes en France. C'est pareil en Grande-Bretagne en partie, mais ce n'est pas du tout pareil en Belgique, en Suisse, etc. L'autobus devient un mode... rétrograde, consacré uniquement à des populations extrêmement précises, qui sont ceux qui n'ont pas le permis de conduire, ceux qui sont trop vieux pour l'avoir, et ceux qui sont trop pauvres pour avoir une voiture, même si c'est démocratisé. On a une forte imprégnation de modernité du côté de l'automobile, alors que les transports en commun souffrent d'un manque d'investissement, on va dire, financier, mais aussi affectif et d'innovation. Alors, c'est rapidement cet établissement de l'automobile, que je ne veux pas non plus décrire comme étant exclusive, hein, mais tout de même, elle s'impose fortement. Elle conduit à ce qu'on peut qualifier quand même de crise de l'automobilisme de nos jours, mais depuis plusieurs décennies. On va essayer de voir quelles sont les diverses formes de crise de l'automobilisme et les multiples transitions auxquelles cela nous invite. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que l'automobilisme, il est en crise depuis longtemps. D'une part, la congestion dans les villes, alors les deux plus grandes villes européennes, Londres et Paris, il y a des scènes de congestion depuis l'entre-deux-guerres. Dans les lieux les plus chargés, vous avez des problèmes de circulation, de chaos, etc. Donc, cette question de la congestion est quelque chose qui n'a pas un siècle, mais presque. La question du stationnement, évidemment, est une question qu'on a dû traiter de façon assez prioritaire. Lorsque la voiture s'est démocratisée à partir des années, milieu des années 50, début, milieu des années 60, et la constitution de différents parcs de stationnement. Autre élément de crise ancien, la question de l'insécurité routière ou de la sécurité routière, l'automobile qui tue. Le maximum de morts sur la route, c'est les années 70, milieu des années 70, et à partir de là, hein, on a l'invention de toute une politique publique. Dans laquelle nous sommes encore pleinement, c'est-à-dire la visée à réduire le nombre de morts qui avait atteint 15 000 par an. Hein, donc aujourd'hui, on est à 2 ou 3 000, je ne sais plus. Donc on a véritablement, on a presque on va dire, complètement maîtriser presque cette crise automobile. Alors évidemment, les crises de l'automobilisme, elles sont aussi liées à son impact sur l'environnement, cette automobile. Alors, mais de même, cet impact sur l'environnement est quelque chose déjà qui a plusieurs décennies. La question du bruit, la pollution locale, qui est depuis les années 70, hein, même mai 68, etc. On dénonce hein, ces méfaits. Et évidemment, depuis moins longtemps, la question du gaz à effet de serre, qui a plutôt tendance aujourd'hui à avoir refocalisé les attentions. La question énergétique, qui régulièrement est en crise. Le 73, on a une inquiétude sur l'automobile. On interdit les courses automobiles, par exemple. On va avoir un moment d'inquiétude, mais qui est passager au final, même si, par exemple, la vague des tramways, le tramway est en quelque part l'héritier de cette inquiétude, puisqu'en 75, l'État lance un grand programme, un concours pour les tramways, etc., véhicules électriques. Donc en réaction avec cette crise énergétique. Et puis une crise d'image de ces valeurs de liberté associées à la mobilité, valeurs anciennement ancrées dès le 19e, avant même finalement l'invention de l'automobile, ces valeurs qui sont fondamentalement en danger, on va dire, au moment où les perceptions de cet objet évoluent. Néanmoins, autant l'image et les valeurs ont pu évoluer, autant finalement dans les usages, l'automobile est toujours extrêmement présente, y compris dans les villes où elle pourrait, elle a beaucoup de concurrents, on va dire. Hein. Elle est toujours au cœur de nos pratiques. Alors, quelles sont néanmoins les formes de transition possibles au-delà de cette automobile individuelle? On en voit plusieurs qui apparaissent. Il y a des formes qu'on pourrait qualifier peut-être d'internes à l'automobilisme, c'est-à-dire que inventer des formes, des automobiles avec d'autres sources énergétiques. Alors, il y aurait toute une histoire qui a déjà été faite du véhicule électrique, l'automobile électrique, dont un des historiens qui s'appelle Mom essaye de montrer que l'automobile électrique, c'est toujours la voiture de demain. Ça a toujours été la voiture de demain. Aujourd'hui, c'est la voiture de demain. Mais dans les différents moments de crise comme ça où elle a émergé, c'est toujours été la voiture de demain, mais elle ne s'est jamais imposée au final. Forme interne à l'automobilisme, c'est évidemment d'autres pratiques autour de ce même objet. Donc tout ce qui est autopartage, covoiturage, etc. Mais on a aussi d'autres formes externes plutôt à l'automobilisme de transition. C'est le développement de mobilités dites alternatives, qu'on appelait parfois douce, dont on peut s'intéresser à savoir si c'est des formes de transition choisies ou subies. C'est-à-dire que dans la mesure où beaucoup ont encore le choix d'utiliser leur automobile, ceux qui utilisent des modes alternatifs, quelles sont les voies qui mènent, qui conduisent au fait d'utiliser un tramway, un vélo, un bus, est-ce pour des raisons idéologiques, des raisons économiques ou de facilité, ou parce qu'on a aussi réduit volontairement l'efficacité de l'automobile. Alors, au-delà de l'automobile, est-on vers une forme de transition aujourd'hui plus générale? Probablement. L'automobile est peut-être que l'incarnation de notre nouveau rapport aux questions de mobilité et nouveau statut de la mobilité. Les valeurs qu'on associe à la mobilité, c'est-à-dire la liberté, aller plus vite, plus loin, etc., sont mises au défi, on va dire, par les conditions actuelles. Autre élément de transition qui est particulièrement intéressant dans le monde des transports, c'est cette question de la frontière entre mode individuel et mode collectif, qui aujourd'hui a presque, pas disparu, mais en tout cas s'efface, s'estompe, à travers l'utilisation collective de systèmes qui étaient individuel, hein. Le meilleur exemple, c'est le vélo en libre-service, c'est une dynamique qu'on retrouve dans différents systèmes. Et de même, un autre type de transition, c'est cette dissociation entre l'usage et la propriété, c'est-à-dire que vous pouvez progressivement ne plus être propriétaire d'une automobile, mais en avoir tout de même l'usage, lorsqu'on voit que différentes formes différents systèmes rendent cette dissociation possible. Et elle semble presque même souhaitable. Donc voilà je vais m'arrêter là pour avoir, juste en conclusion, montré que finalement les transitions sont des habitudes finalement de ces systèmes, de ces mondes techniques, sociotechniques. On a des innovations, on a des périodes de crise et puis on bascule vers autre chose. Autre chose qui, en plus, dans tout cela, finalement, il y a jamais. Les systèmes meurent rarement. Finalement, ils se transforment, ils évoluent, ils subsistent. Aujourd'hui, il y a toujours des bus, finalement, alors que ils ont bien failli être tués, etc. Donc, on a aussi toute une écologie de ces systèmes qui est assez intéressante, avec des dominations successives. Et effectivement, l'automobile semble aujourd'hui peut-être être descendre, on va dire, de son statut. Mais ce n'est finalement, ça peut s'inscrire dans une longue histoire de transition technique. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour et merci pour votre présentation. On n'en a pas trop parlé ici, mais je voulais savoir, on avait vu que le pétrole, on n'en aurait que pour 50 ans à peu près. Et même si c'est un sujet épineux, que pensez-vous du fait que les politiques veuillent agrandir l'aéroport de Nantes, par exemple? On n'a pas trop parlé de l'avion, mais bon, c'est un des moyens de transport.
Non, en tant qu'historien, je ne peux rien en penser. Je suis ni compétent ni système aérien, ni sur le sujet de Nantes en particulier. Désolé. Mais la question est intéressante. En tant que citoyen, je pourrais dire des choses, mais pas à la tribune.
D'accord. Merci.
Bonjour. Bonjour et merci pour votre présentation. J'avais juste une question par rapport à la transition entre l'automobile et les systèmes électriques et le système thermique. Quelles sont les raisons historiques de ce basculement de finalement que l'électrique était en vogue vers les systèmes thermiques alors qu'ils étaient dans les premiers instants mal vus?
Alors, donc on situe vraiment dans les années 1900-1910. L'électrique a réussi à s'imposer dans un certain nombre de niches, marchés de niches, comme le taxi dont j'ai parlé, comme des véhicules utilitaires de livraison, des grands magasins, etc. Donc avec des flottes, on va dire, maîtrisées, avec des itinéraires connus, pas trop longs, etc. Et avec des gens qui n'étaient pas inquiets de ne pas pouvoir aller très loin, puisque de toute façon, ils savaient ce qu'ils allaient faire et ils pouvaient changer de batterie régulièrement avec un système. Elle a tenté de s'imposer au plus largement vers des individus privés. Et c'est là où elle était en concurrence plutôt avec le thermique, qui était au début peu fiable, assez sale, mais qui a progressivement gagné en fiabilité et essayé de se rendre un peu plus propre. Une des grandes raisons de la fermeture de ces choix énergétiques, ça va quand même être ce qui se passe à la guerre de 14. C'est-à-dire que lorsque la guerre éclate, les armées ont besoin de véhicules capables de seconder le train, hein, parce que d'abord c'est le train, mais le train ça va que là où il y a des rails, etc. Le moteur thermique va s'avérer être beaucoup plus efficace pour ce type d'usage. C'est-à-dire aller un peu n'importe où, pas être inquiet sur sa capacité d'aller loin, et également pouvoir porter. C'est-à-dire que du coup, ils vont mobiliser des flottes qui d'abord sont des flottes thermiques, c'est-à-dire les bus londoniens et parisiens, et après ils vont produire des camions dans ces mêmes usines, dans différents types d'usines hein, qui fabriquaient tout et n'importe quoi, qui deviennent des usines de fabrication d'armement et de camions. Et ça focalise sur le monde du thermique, ce qui fait que vous avez en tête les taxis de la Marne, vous avez en tête différents véhicules qui en fait sont thermiques, et ce qui va conduire à marginaliser l'électricité dans un certain nombre de niches. Parmi ces niches, l'électricité va essayer de conquérir le marché des femmes, en se disant que l'électricité est plus propre, et donc c'est un mode pour les femmes. Donc vous allez avoir des constructeurs de voitures électriques qui vont essayer contraints par le fait que ça marche plus trop bien pour tout le monde, ils vont se dire, bah, on va aller voir les femmes. Et en fait, il y a des publicités assez intéressantes qui montrent la femme utilise naturellement la voiture électrique, mais ça ne s'impose pas plus parce que finalement, les femmes sont aussi inquiètes pour la batterie et sa capacité à aller loin que les hommes. Et surtout, il y a moins de conductrices hein, que de conducteurs dans ces années 20. Voilà.
Merci beaucoup.
Bonjour, merci déjà. Je voudrais revenir sur un point. Depuis ce matin, on parle beaucoup de rupture technologique pour parler de transition énergétique. Là, sur votre exposé, on voit que bah, les innovations technologiques, on les a depuis un siècle pour adapter la société à des nouveaux moyens de transport. Et donc, j'aimerais vous demander quelle place le pouvoir public a aujourd'hui dans cette transition. Et quelles sont les mesures qui pourraient être appliquées assez rapidement ou dans l'avenir ?
Alors, c'est intéressant de voir leur relation. Est-ce que les pouvoirs publics, quel rôle les pouvoirs publics ont pu jouer dans les différentes transitions dont j'ai parlé ? Alors, en fait, grosso modo, dans ce monde des transports urbains, les pouvoirs publics au 19e ne s'y sont quasiment pas intéressés. C'est de l'entreprise privée, du libéralisme pur. Aussi bien en France qu'en Angleterre. C'est donc des compagnies qui trouvent ça rentable, qui investissent, qui se battent, etc., sur un marché très libéral. Et il y a deux grands moments, en fait, la guerre de 14 et la guerre de 40, qui vont faire que les pouvoirs publics vont être contraints de s'y intéresser, parce que les périodes de guerre sont des périodes d'inflation, où ils vont essayer de contrôler des tarifs, des transports, pour ne pas favoriser l'inflation, mais du coup, les compagnies tombent en faillite. Donc après, les pouvoirs publics les récupèrent. Et donc, l'investissement des pouvoirs publics sur le temps long, il se fait progressivement dans ces champs-là. Néanmoins, dans la petite histoire que je vous ai racontée, les pouvoirs publics ont joué un rôle important dans la mesure où, dans les cahiers des charges de concession, ils peuvent spécifier que les véhicules seront thermiques, seront non plus à cheval, mais thermiques ou électriques, etc. Et c'est ce qui se passe lorsqu'il y a des renouvellements de concessions en 1920, etc., pour Paris, par exemple. Donc on a un rôle assez important des pouvoirs publics dans les évolutions, les basculements techniques. Aujourd'hui, une autorité organisatrice des transports pourrait probablement avoir une politique un peu plus volontariste sur les choix énergétiques ou les choix énergétiques faits par son concessionnaire. Ça me semble quelque chose qui pourrait être de l'ordre du possible. Vous avez des grands effets d'annonce de certains grands concessionnaires comme la RATP qui dit que demain tous ces bus seront électriques, etc. Enfin, c'est un peu toujours le bus de demain. Le problème, c'est que face, par exemple, à une RATP, l'autorité organisatrice des transports, c'est tout petit. Ça a peu de compétences sur les véhicules, c'est-à-dire que ça n'y connaît pas grand-chose sur les véhicules eux-mêmes, puisqu'il les exploite que de très loin. Enfin, c'est une concession. En l'occurrence, c'est un peu compliqué, mais voilà. Du coup, on a quand même un problème d'expertise technique. Où se situe-t-elle ? Et elle se situe beaucoup plus du côté de l'exploitant lui-même. Donc on a ce déséquilibre qui est un peu classique entre une tutelle et une société exploitante, on va dire. La compétence, l'expertise, elle se trouve aussi plutôt du côté de celui qui a quotidiennement ses véhicules. Donc ma réponse est un peu ambivalente.
Oui, parce qu'on se pose des questions au regard de l'histoire. Arnaud, il faut tirer des leçons de l'histoire quand même, savoir que qu'on peut faire un choix de transport moins polluant, et quand on voit le bazar que ça a été à Paris, quand il y a eu un pic de pollution pour que les gens acceptent de ne pas garder leur voiture, ça s'est fait quoi, 48 heures avant, enfin bon, c'est les médias, c'était quelque chose. Quand on regarde l'histoire, on se dit quand même qu'on peut avoir un regard politique et un recul, la question qui était posée aussi, comment ça se fait que les pouvoirs publics ne réagissent coco par coup, quoi ? Parce que c'est l'éternelle question, l'énergie, ça sera c'est la même question. Donc que pensez-vous de cela ?
Sur je dirais que les transports en commun, ou les transports en général et notamment en commun, sont un sujet d'une sensibilité extrême, parce que c'est un sujet du quotidien. C'est un sujet que vous utilisez régulièrement, tous les jours, plusieurs fois par jour, soit ces transports, soit votre voiture, etc. Et l'épisode de la circulation alternée l'a bien montré, c'est que dès qu'on touche à ça, on est véritablement dans alors le scandale, les 15 titres de journaux, etc. Aussi peut-être parce que c'est un des éléments par lequel on révèle nos fragilités les plus rapidement, hein, c'est-à-dire que notre fragilité à la dépendance énergétique, aux pollutions immédiatement visibles et insupportables, eh ben, on joue sur le transport, alors même que pour l'épisode des circulations alternées, bah, le transport n'est pas le seul responsable de production de particules fines, etc., mais simplement, c'est celui qui, d'une part, est le plus partagé collectif, hein, c'est pas l'industrie, c'est chacun y touche, et c'est d'une très grande visibilité, mais c'est d'une très grande sensibilité en même temps, on l'a bien vu. Donc, c'est un sujet qui, en quelque part, en fait, comme il révèle, moi je dirais que comme il révèle nos fragilités, du coup, dès qu'on y touche, on réagit presque inconsciemment en se disant, enfin, il y a une réaction de malaise en fait. C'est ça que je pourrais.
Oui, mais concrètement aujourd'hui, quand on voit par exemple qu'une ville comme Paris, qui est quand même au niveau des infrastructures suréquipée, qui pourrait très bien interdire l'automobile comme l'a fait Londres à l'intérieur de la ville, quelle est aujourd'hui la place vraiment du pouvoir public pour interdire l'automobile à l'intérieur d'une ville, ou au moins pour décourager les utilisateurs de l'utilisation de l'automobile? Parce qu'on on parle très souvent des infrastructures publiques, mais la plupart des voitures qui sont en ville, c'est les usagers de la ville. Moi, je prends ma voiture parce que j'habite à la campagne, mais la plupart des gens qui habitent en ville n'ont pas besoin d'automobile, on est bien d'accord. Et là-dessus, quelle est la place du pouvoir public pour développer, encourager ou désencourager les gens de prendre leur voiture?
Alors, un chiffre d'abord, c'est que dans Paris intramuros, 2 millions d'habitants, le nombre de déplacements qui se font en automobile, c'est 10%. Donc 90% des déplacements ne se font pas en automobile, la majorité, c'est à pied. Deuxièmement, la politique de lutte contre l'automobile, elle existe à Paris, elle est aussi puissante qu'à Londres, c'est-à-dire que les chiffres à Paris depuis Delanoë, mais il était sur une tendance qui était comme ça, ils sont à la baisse, l'usage de l'automobile baisse. Dans Paris intramuros. Cette politique de lutte contre l'automobile, elle s'est pas fondée explicitement sur l'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas comme à Londres avec un péage urbain, elle s'est fondée sur l'espace, c'est-à-dire qu'on a, on a mis des bâtons dans les roues de l'automobile, on a réduit sa place via des couloirs de bus, via du tramway, via des réductions de nombre de places de stationnement, etc. Donc l'automobile voit son territoire se réduire très fortement. Et par ailleurs, vous avez la question du stationnement, qui est extrêmement cher et qui est une sorte de péage urbain qui ne dit pas son nom, qui est moins sensible politiquement. Puisque dans l'espace national français, le péage urbain est quelque chose qui est perçu comme insupportable socialement. C'est quelque chose qui existe à Londres, évidemment. Alors Londres incarne un peu le libéralisme, hein, on va dire, en Europe. C'est à Stockholm. À Stockholm, pourtant, les sociétés qui sont plus égalitaristes. C'est aussi, alors à Milan, je ne sais plus s'il est mis en place ou s'il va être mis en place, mais c'est aussi une des solutions largement discutées à Milan. Donc les villes italiennes, d'ailleurs, sont assez intéressantes dans la mesure où elles ont réussi à se doter de zones ZTL, zones à trafic limité, où dans les cœurs des villes italiennes, à Rome, etc., vous avez des zones largement piétonnisées avec un petit peu de voitures, mais il y a des politiques comme ça assez fermes. Donc, je dirais que la façon dont la lutte contre l'automobile se joue en France, c'est par l'espace, par les plans de circulation. On coupe, on réduit la capacité des gens à, enfin, on réduit l'efficacité de l'automobile. En ce sens, ça me rappellerait presque le refus du tramway, où on réduit son efficacité en lui refusant l'alimentation aérienne. Du coup, il est obligé de trouver d'autres solutions. Il est moins efficace, moins rentable, etc. Mais de rien, merci.
Patrick qui va prendre la parole maintenant.
avancer, vous regardez là, parce oui, que là, on a un peu de retard, un petit battement. Là.
Tu veux que je me présente ?
Je vais le faire. Oui, non, je vais le faire. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous présenter donc maintenant notre intervenant suivant qui est Patrick Niera, alors qui est chercheur dans l'unité en charge des transports de marchandises au sein de l'IFSTAR. Alors c'est l'Institut français des sciences et technologies des transports, qui est l'équivalent du CNRS mais sur les transports d'une certaine façon. Et alors donc ses recherches portent sur l'offre de ce transport, alors aussi bien le transport routier que ferroviaire, fluvial ou maritime, et en particulier sur le transport intermodal, où donc les conteneurs vont emprunter successivement plusieurs modes de transport. Hein, c'est ce qu'on appelle effectivement l'intermodalité. Alors son objectif est de comprendre ce qui fait la performance de chaque solution pour analyser la concurrence entre ces différents modes de transport. Alors, donc, par ailleurs, il enseigne ces sujets dans des écoles d'ingénieurs, l'école des ponts et chaussées, l'école du TPE, alors c'est transport public de l'État, ainsi qu'à Dauphine. Donc il va vous entretenir cet après-midi de cette question, moins de camions sur les routes, c'est possible, point d'interrogation.
Vaste sujet. Bien, l'idée c'est ça. Ce que je vais m'efforcer de faire, c'est d'essayer de vous montrer en comparant ce qu'on peut faire avec un réseau routier et ce qu'on peut faire avec un réseau ferroviaire, de montrer que bien souvent on croit qu'on peut changer ou qu'on peut passer facilement d'une solution de transport, la route, au système ferroviaire. Et je vais vous montrer qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui se pose et qui perturbe cette efficacité. Donc le titre publicitaire, ou je ne sais pas comment, est bien celui-là. Le sujet, c'est cette question qu'on appelle celle du report modal. Est-il possible de passer facilement d'un mode à un autre ? Et cette question, on l'aborde souvent en disant aujourd'hui, si on veut développer le système ferroviaire, il faut surtout créer des lignes, créer des infrastructures. C'est ça qui est beaucoup l'approche qu'on entend. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est, de mon point de vue, beaucoup plus une question de services de transport et des conditions dans lesquelles on peut mettre en place ces services de transport. Donc, mon exposé est en trois temps. Le premier est un petit rappel du contexte. Le second est de rappeler un certain nombre de banalités d'ordre technique qui forment ce qu'on appelle un service de transport. Et enfin, d'appliquer ça à la comparaison d'un réseau routier et d'un réseau ferroviaire. Voilà. Alors, pourquoi en France et dans tous les pays du monde on s'intéresse-t-on au système ferroviaire ? C'est qu'il est dit plus performant que le système routier. Donc ici, vous avez un certain nombre d'éléments qui comparent le système ferroviaire, routier et même fluvial. Là, par exemple, on voit que les camions, ça consomme plus de carburant que le train et que le train consomme plus de carburant que le bateau. Et du coup, tout le monde dit c'est évident qu'il faut aller vers les modes les plus efficaces. Peut-être certains d'entre vous ont vu cette image qui était une publicité qu'on a vue, qui était de l'an dernier, qui montre une péniche traversant Paris en transportant beaucoup de conteneurs pour livrer les magasins parisiens. Et à l'évidence, cette solution emporte l'enthousiasme et dit ben oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, cette idée est très fortement ancrée de la hiérarchie de ces solutions, celle-ci étant la plus efficace. Juste un mot sur les deux transparents qu'on vient de voir. Ils comparent effectivement les trois solutions, mais ils les comparent au moment où elles, sur le barreau principal, au moment où elles sont effectivement le plus efficaces. Elles ne comparent pas de porte à porte, c'est-à-dire elles ne comparent pas le service qui est mis en place pour aller de l'entrepôt jusqu'au magasin, puisque ce bateau ne va bien évidemment ni à l'entrepôt, ni au magasin. Il est sur une partie du trajet. Et donc les éléments qu'on voit ici et dans le transparent d'avant sont à la fois justes et faux. Juste parce qu'ils comparent l'efficacité en ligne du système et faux parce qu'ils ne comparent pas des choses équivalentes. Petit rappel sur l'histoire des transports. Vous avez ici l'histoire en France de l'emploi des différentes techniques. En rouge, ce qui domine, c'est le transport routier. Vous avez tous cette expérience des camions nombreux sur la route. Donc c'est l'histoire rouge. Ce que vous savez peut-être quand même, c'est l'histoire du chemin de fer qui culmine pour le fret dans les années 75 et qui, depuis cette année 75, décline pour atteindre aujourd'hui une performance ou un nombre de tonnes kilomètres produits égal à 40% de ce qu'il a fait dans ses meilleures années. Un commentaire juste sur cette courbe verte, le transport ferroviaire, le début de son déclin, c'est la première crise énergétique, 73-74, c'est là que tout commence à se perturber. Et pourtant, ce système est bien le système qui, sur le plan énergétique, est plus efficace que la route. Et donc, mon propos, c'est pourquoi est-on dans cette situation-là? Ça se traduit en part de marché. Hein. Aujourd'hui, la route représente 87-88% des tonnes kilomètres produites en France. Le système ferroviaire et le système voie navigable font 10 et 2%, c'est-à-dire 12% au total. Très très loin de ce qui est fixé par l'objectif du Grenelle de l'environnement, qui est d'atteindre à l'horizon, alors l'horizon change tout le temps, est repoussé de proche en proche, ce qui est visé par Sarkozy, quand il est président de la République, par les ministres d'avant qui étaient communistes, c'était d'atteindre 25% au minimum pour le transport ferroviaire plus le transport par voie navigable. Et donc cette part ne cesse de diminuer. Donc ce contexte rappelé, je voudrais d'abord présenter deux dimensions de comparaison d'un système routier et d'un système ferroviaire. On va introduire progressivement les éléments qui sont là, mais dès à présent, on aura le réseau vert qui sera le réseau ferroviaire. Il a comme caractéristique d'être un réseau discret, je vais le définir tout à l'heure. Et l'autre, le réseau routier qui est en rouge, qui est un réseau continu. Première dimension, lorsque on a une marchandise, on est une entreprise qui a transporté une marchandise entre deux points de l'espace, une origine et une destination, et que cette entreprise a la possibilité d'utiliser le rail et la route. Quel va être son intérêt à elle? Donc là, les économistes, traditionnellement, font une comparaison du coût du transport en fonction des quantités qui vont être transportées. Si on utilise le train, il y a une technique qui est très efficace, c'est vous mettez une locomotive devant un paquet de wagons et vous emportez tout ça vers sa destination. C'est ce qu'on appelle le train entier. En termes de coût, cette formule, c'est une charge fixe importante et des charges variables en fonction de la quantité, variables faiblement en fonction de la quantité. C'est ce qui permet des économies d'échelle. Si vous utilisez un camion et que vous n'avez pas grand-chose à transporter, vous allez mettre un camion. Si vous avez un peu plus de choses à transporter, vous allez mettre deux camions, et ainsi de suite. Et donc la courbe, en fonction des quantités qui est celle du système routier, a cette allure-là, d'une fonction en escalier, avec l'emploi d'un certain nombre de camions en fonction de la quantité. Il vient une quantité qui est le seuil ici, Q0, à partir duquel l'emploi du train est plus intéressant que l'emploi de la route. Première solution ferroviaire. Il existe une seconde solution ferroviaire qu'on appelle le wagon isolé. Toutes les entreprises n'ont pas la possibilité d'envoyer des paquets de 1000 tonnes ou de 1500 tonnes. D'autres entreprises ont des envois de 100 tonnes, de 200 tonnes. À ce moment-là, on les met dans 1, 2, 3 wagons. Et ces wagons, il va falloir les porter jusqu'à leur destination en passant par un triage, puis en ayant un train dit intertriage qui sera bien rempli, On finira par rejoindre un triage proche de la destination. À partir de là, on rejoindra le destinataire. Si je représente le coût de cette formule dite du wagon isolé, pour que ça marche, il va falloir qu'elle ait cette allure-là. C'est-à-dire que le coût du transport va avoir une charge fixe, généralement plus importante que le seul transport que le transport par camion. Une pente un petit peu plus élevée que celle du système ferroviaire tout à l'heure, parce qu'elle est moins efficace en fonction des quantités que la première solution ferroviaire. Et donc voilà le paysage tracé par cette forme de transport. Deux effets en termes de seuil. La première, c'est qu'elle va permettre l'emploi du système ferroviaire sur des quantités plus petites que tout à l'heure. Autre effet ici, vous voyez que tout à l'heure, le train entier était rentable ou intéressant à partir de cette quantité-là. Cette quantité a été reportée plus loin. Troisième solution ferroviaire, c'est ce qu'on appelle le transport combiné rail-route, le transport intermodal. On met la marchandise dans un conteneur et ce conteneur va avoir un trajet routier, puis un trajet ferroviaire, puis un trajet routier pour rejoindre sa destination. Ce que l'on montre par rapport à cette technique sur une origine-destination donnée, c'est que soit cette technique ou cette solution n'est pas rentable. Elle coûte plus cher que la route et à ce moment-là, elle ne change rien. Soit elle coûte moins cher que la route et à ce moment-là, c'est le cas que j'ai dessiné, elle conserve l'allure de celle de la route parce qu'on va prendre un conteneur, deux conteneurs, trois conteneurs et vous voyez que ici, la courbe, cette courbe-là est un petit peu plus basse et de plus en plus basse que la courbe du transport routier. En matière de partage entre les différentes solutions, on a plusieurs effets à présent sur entre cette origine et cette destination pour cette entreprise. Tout est ferroviaire. Pour les petites quantités, on va utiliser le transport combiné. Puis, on utilisera le wagon isolé. Et enfin, le train entier. Mais ce que l'on voit apparaître, c'est les déplacements de ces seuils. Et en particulier, vous voyez que tout à l'heure, le seuil pour prendre du train entier, c'était celui-là. La présence de deux solutions de transport ferroviaire a repoussé ce seuil. La présence de trois solutions ferroviaires a encore repoussé ce seuil-là. Ce qui fait que le domaine d'application de chacune des solutions, ici, a eu plutôt tendance à se resserrer. Ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est qu'il existe une concurrence des techniques ferroviaires entre elles et que cette concurrence a un rôle souvent destructeur sur l'efficacité du dispositif. On va y revenir tout à l'heure. Donc, quand on dit le système ferroviaire, il n'y a pas un système ferroviaire et vous voyez que ici, c'est compliqué. Pour moi, industriel, l'emploi de l'un, de l'autre, etc., fait que quand on dit voilà le coût du système ferroviaire, de quoi parle-t-on ? Première dimension. Deuxième dimension concerne l'accessibilité. Imaginons un instant qu'on ait exactement le même réseau ou le même réseau routier et ferroviaire. Donc j'ai tracé à gauche et à droite ce réseau. On va d'abord voir ce qui caractérise le réseau ferroviaire. Le réseau ferroviaire, vous connaissez, vous savez que les trains se suivent les uns derrière les autres. Quand on veut charger ou décharger une marchandise, il faut sortir le train des voies principales pour qu'on puisse, pour qu'on puisse le décharger. On va avoir des gares, on va avoir des installations où on peut faire ça. Et ces gares sont en nombre limité. Donc voici le réseau ferroviaire qui est défini pas tant par la quantité de lignes, mais par le nombre de ces points d'entrée, qui sont soit des usines, soit des gares dédiées à ça, soit pour le transport intermodal, des terminaux où on prend les conteneurs pour les placer sur des trains. Pour vous fixer un ordre de grandeur, en France, ces points verts, il y en a 4000 pour les industriels. Pour le transport combiné, il y a 15 terminaux sur le territoire français. Donc pas beaucoup. Et en plus, ce que l'on vient de voir avec le transparent d'avant, c'est que Eh bien, entre tous ces points, techniquement, on peut faire circuler des wagons, bien sûr, mais pour être efficace, on va ne pouvoir le faire circuler qu'entre les points pour lesquels on a suffisamment de trafic, si bien que l'offre ferroviaire sur ce réseau-là va être les connexions entre certains points entre lesquels circulent suffisamment de marchandises. Pour le réseau routier, pratiquement n'importe où, on peut décharger un camion, d'autant que les camions ont un haillon qui permet de le faire. Et donc, j'ai représenté ce même réseau avec cette idée, on peut aller partout. Donc, ce réseau de gauche, le réseau vert, est discret au sens qu'il y a peu ou un nombre défini de points qui permettant d'entrer, donc discret au sens mathématique, alors que l'autre est un réseau continu. On peut aller de n'importe où à n'importe où. En matière de temps, quel est le plus efficace du transport routier et du transport ferroviaire? Ce qui caractérise le transport ferroviaire pour les marchandises, c'est qu'il y a un train par jour, deux trains par jour qui circulent sur un axe. Au moment où ces trains vont partir, c'est le moment où ils auront la meilleure efficacité en termes de temps. C'est là qu'ils seront le plus vite à destination. Et pour représenter sur ce dessin comment les choses se présentent, j'ai choisi les meilleurs trains français, dont les trains qui circulent entre Avignon et Paris. Deux trains par jour qui partent à 19h et 20h, par là, on va le voir affiché. Ce que je vais représenter sur ce transparent, c'est selon l'heure de départ, à quelle heure ou combien de temps après je suis à destination. Donc on retrouve ici l'horaire des meilleurs trains. Je suis, si je prends ce train-là, 11 heures après à Paris, si je prends ce train-là, 10 heures après à Paris. L'offre est excellente. Mais si j'arrive une seconde après le départ du second train, le prochain train, il est demain. Et donc, je vais avoir 23 heures d'attente pour... Et donc, la représentation du temps en termes de dans combien de temps je suis là-bas en fonction de l'heure de départ ressemble à ça. Si je parle du transport routier, sur la même relation, le transport routier, il va y avoir des embouteillages, il va y avoir des trucs et des machins, et c'est pas structuré en fonction de l'heure. Donc moi, je l'ai représenté en disant, sur cette relation-là, grosso modo, le temps de parcours pour aller d'ici à là-bas, ça va représenter entre 10 et 14 heures. Donc, cette forme-là, alors je ne sais pas si mes 10 et 14 heures sont justes, mais peu importe, bon an, mal an, quelle que soit l'heure, je serai à destination de cette façon-là. Donc, si vous voulez, l'habitude, c'est de comparer les performances en termes de « voilà le meilleur train qui fonctionne », mais ça, les transporteurs et les industriels s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est ma marchandise, dans combien de temps elle est à destination, comment je m'organise par rapport à ça. Et donc, vous voyez ici que, selon l'heure, la bonne solution sera par moment de prendre le camion, par d'autres moments de prendre le train. Mais si moi, industriel, j'ai besoin d'une situation qui est stable dans le temps, la bonne situation, c'est de prendre le camion. Donc à nouveau, un contraste entre une offre discrète, alors pour le temps, elle est discontinue, alors que l'autre, elle est continue, sur ce tableau-là. Voyons, essayons de traduire tout ça en termes de compétitivité. Donc d'habitude, on représente l'efficacité d'un train, en termes de coût, par un petit diagramme qui montre le coût en fonction de la distance. Pour le transport ferroviaire, une charge fixe et puis une charge variable. Pour le transport, alors ça c'était le transport routier, même système, mais la charge fixe du système ferroviaire est plus importante que celle du système routier. Et de cette façon-là, vous voyez, on définit une distance à partir de laquelle prendre le train, c'est plus intéressant. C'est bien joli tout ça, mais ça ne correspond absolument pas à l'idée du système de transport ferroviaire dont on a vu qu'il était discret. Quand je présente l'affaire de cette façon-là, je dis que je peux descendre du train, ma marchandise, tous les 100 mètres. Alors qu'on vient de voir que non, on ne peut sortir la marchandise qu'en des points particuliers de l'espace, ces gares. Et donc cette représentation, pour la raison que je viens de dire et pour d'autres, il faut à la fois l'avoir en tête parce que tout le monde pense à ça. Vous avez tous un peu cette idée. Et l'oublier parce qu'elle ne colle pas avec la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas aller en train partout. Et donc par rapport à ça, on dispose d'une autre représentation. Alors, elle est ici un petit peu simplifiée, qui on retrouve sur l'axe qui est en bas, l'origine et la localisation du terminal. Et sur cette droite, je compare le coût d'un transport, d'abord routier, le rouge, le pas beau, donc des charges fixes qui sont les mêmes que là-haut, et puis des charges qui varient en fonction de la distance. Et pour le transport ferroviaire, ben, le transport ferroviaire, ou plus exactement l'emploi du transport massifié sur une partie du trajet et ensuite quelque chose qui se dilue. Hein, quand on parle de wagons isolés, on va porter 3 wagons chez un client, on va mettre une locomotive pour tirer les 3 wagons, ça va coûter cher. Si on fait du transport combiné, on va se passer du système ferroviaire au système routier. Mais ce trajet-là, on va le faire à partir du moment où on sort du système massifié. Et donc, ça, c'est la représentation adaptée à la représentation du coût du système ferroviaire. Dans les charges fixes qui sont ici, on a tous les coûts qui ont permis d'aller de haut jusqu'à ce terminal. Donc, il y a la partie ferroviaire et il y a le préacheminement à l'autre extrémité. Et puis, dans la partie variable, on va avoir les coûts de propagation à partir du terminal d'arrivée. Si on définit les bons lieux comme ceux qui sont pour lesquels une solution est la moins chère, et bien vous voyez qu'on n'a pas du tout le même résultat. Ici, le transport ferroviaire est intéressant autour des points d'entrée-sortie, ce qui n'est pas une surprise, mais ce qui est différent de ce qui est écrit là-haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des aires de marché, qui permet de tracer autour des points nodaux, des triages, des terminaux, des territoires, pour lesquels l'offre ferroviaire ici est plus intéressante que l'offre routière. Bon, le problème, c'est que dans notre univers, on a plein d'utilisateurs, on a plein d'entreprises. Et donc, si on a ici un axe ferroviaire entre deux terminaux, cette approche sur les théories des aires de marché permet de définir, voici un premier transporteur routier qui utilise le transport combiné, ou voici une entreprise qui utilise du wagon isolé. Ça va être intéressant pour elle à l'intérieur de cette aire de marché. Donc j'ai dessiné ici des clients de ce premier transporteur. Ce qui fait l'aire de marché de ce transporteur-là, c'est les performances qu'il obtient. Donc je les ai définies de cette façon-là et je n'ai pas le temps de vous les préciser. Voici un second transporteur routier, qui utilise le même service ferroviaire sur cet axe-là. Il a d'autres performances, il a une aire de marché qui est différente. Voici ses clients, vert foncé. Donc on voit ici que certains clients du vert clair intéressent le vert foncé, que certains clients du vert foncé intéressent le vert clair, mais que celui qui est ici en position de force, c'est le vert foncé qui a la possibilité de s'intéresser à l'ensemble de ces clients-là. Donc ça, c'est pour parler de ce qu'on appelle la concurrence à l'intérieur d'un mode. Et puis, il y a le transport routier. Et le transport routier, lui, il a ses clients n'importe où. Donc il va en avoir des clients qui sont carrément extérieurs à la position qui est un peu intéressante par ceux qui font du transport combiné. Et puis d'autres qui peuvent intéresser les premiers transporteurs. Donc lui, ce transporteur routier, il va jongler entre des clients qui ne sont pas à la portée du transport, de ceux qui utilisent le transport combiné, et des clients qui sont à l'intérieur, donc sur lequel il sera en position de force, parce que pour faire un aller-retour sur un Paris-Avignon, le rouge ici pourra servir correctement ce point-là dans la combinaison de ces flux qu'il organise entre ces deux clients. Au final, dans cette concurrence où il y a plusieurs, il y a d'abord une concurrence interne et en plus il y a une concurrence entre les modes de transport, celui qui est en position de force lorsque les coûts entre le système de transport routier et de transport combiné, les différences de coûts ne sont pas très importantes, eh ben, c'est le système rouge. Appliquons tout ça à notre réseau de tout à l'heure pour représenter sur un seul réseau ce que signifie ou les conclusions auxquelles on peut aboutir. Donc voici le réseau avec le système ferroviaire. Si on parle de wagons isolés, eh ben, autour des gares ou des triages principaux, on va pouvoir servir des industriels qui sont localisés sur les lignes ferroviaires. Et puis, si ça, c'est ce qui est accessible au système ferroviaire, voici, sur le même réseau, ce qui est accessible au système routier. Donc, aller de là à là, c'est du domaine routier. Aller de là à là-haut, en vert, c'est le système routier. Mais aller de là à là, c'est au système routier. C'est-à-dire le vert, il est vert que sur les relations entre lesquelles j'ai fait circuler mon train circule. Si on applique cette logique d'aire de marché, donc on ouvre à des destinations qui sont autour de ces points, par exemple avec le transport combiné, on a un territoire qui est plus grand pour le système ferroviaire. C'est l'intérêt de la solution de transport combiné par rapport au système ferroviaire. Le système ferroviaire, comme on le disait tout à l'heure, il ne va que là où les rails vont. Mais si on donne cette possibilité au ferroviaire, il faut la donner aussi à la route. Et donc voici le partage spatial de l'activité entre les deux domaines. Bien sûr, tout ceci peut être amélioré. Donc ici, je représente rapidement ainsi une organisation en hub and spoke. Pour aller d'un point vert à un autre point vert, on passe par un point intermédiaire qui permet de multiplier ou d'augmenter les axes sur lesquels on va pouvoir faire du transport. C'est quelque chose de bienvenu, c'est la logique qu'on appelle la logique hub and spoke, qui va permettre de retrouver ou de desservir entre tous les points verts que j'ai dessinés une proposition ferroviaire, alors que tout à l'heure on n'avait que sur les axes, c'est là l'amélioration ferroviaire. Et quand on parle d'une logique de hub, cette logique de hub a une propriété qu'on peut facilement ajouter des points. J'ai parlé trop vite, donc d'abord, ce qui n'est pas vert est rose. Et puis, mon hub permet de mettre des systèmes ou des clients supplémentaires. Et donc, j'en ai représenté deux ici. Si j'applique la logique des aires de marché, voici quel sera le territoire ferroviaire, de vert à vert. Et puis, le reste est aux concurrents. Voilà. En termes d'organisation, c'est ce qui est marqué ici. L'organisation ici a été apporte du bénéfique en ce sens qu'elle multiplie les origines et les destinations possibles par le ferroviaire. Elle est plutôt handicapante en matière de temps ou de durée parce que tout à l'heure, pour aller de là à là-haut, on allait directement. Maintenant, on passe par un point intermédiaire. Si ce point intermédiaire, le passage prend du temps, par exemple, ce que l'on dit du système ferroviaire, c'est que quand il y a un triage en cours de trajet, pour la durée totale du trajet, il faut compter 24 heures, 48 heures si on a deux, ainsi de suite. Donc tout à l'heure, on avait un transport direct qui se faisait peut-être en ferroviaire en 12 heures. Maintenant, en passant par le point bleu, il va se faire en 24 heures. Donc c'est cette dégradation. Dans certains cas, cette dégradation va permettre une fréquence améliorée, c'est possible. Et en matière d'aire de marché, elle va souvent jouer un rôle positif parce que quand on multiplie les destinations possibles, on multiplie ou on augmente le territoire sur lequel on va pouvoir trouver des clients. Que conclure de tout ça ? En matière de politique de transport, alors j'avais prévu ça sur le carburant, je vais parler de quelque chose qui est un petit peu plus... que des hommes politiques mettent en place une taxe carbone pour augmenter le prix ferroviaire, le prix routier. Qu'est-ce que ça donne dans notre univers où on va comparer le réseau discret au réseau continu en fonction d'un certain nombre de paramètres ? En matière de compétitivité, on a augmenté le coût du carburant routier. Ça joue un rôle plutôt positif pour ceux qui utilisent le train. Mais parce qu'ils n'ont pas des quantités suffisantes, d'autres vont rester sur le système routier et ceux-là seront pénalisés. En matière de seuil, si on a augmenté le coût du routier, eh ben ça va permettre d'augmenter le nombre des entrées-sorties, de baisser les seuils. Donc ça joue un rôle favorable pour le ferroviaire et défavorable pour l'autre, pour ceux qui n'ont pas accès à ces bénéfices-là, parce qu'ils n'ont pas les quantités. Si on s'interroge sur l'innovation, qu'est-ce que l'innovation a pu apporter ces dernières années, alors ces dernières 50 années, dans le système routier? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que dans le système routier, durant les 50 dernières années, il y a eu tout le temps des petites améliorations. Pour l'illustrer, un camion, il y a 20 ans, ça consommait 40 litres au 100. Aujourd'hui, un camion, ça consomme 32 litres au 100. Côté train, j'ai fait cet exposé déjà pas mal de fois. J'ai mis rien parce que je suis gentil. Je pourrais plutôt mettre quelque chose de négatif. Il n'y a pas eu d'amélioration dans le domaine du fret, nulle part au monde. En matière d'homogénéité, c'est là le problème, c'est que l'offre ferroviaire par construction, elle n'est pas homogène. Pour ceux qui ont accès, elle est très bien. Pour ceux qui n'y ont pas accès, ils n'y ont pas accès. Alors que l'offre routière, elle est mauvaise partout, mais elle est partout pareille. C'est comme le hamburger de chez McDonald's. Il est mauvais partout, mais au moins vous savez que vous pourrez manger, que vous ne serez pas malade après. Bien sûr, mais ce n'est pas le propos. Bien sûr, il existe des restaurants où on mange mieux, hein, mais c'est plus cher et tout le monde n'y a pas accès. Et parfois, ce n'est pas bon. Donc la difficulté de ce système-là, c'est que voici l'action de notre homme politique. Et finalement, comment l'industrie va réagir? Donc l'industrie, selon qu'on ait une entreprise dans un endroit qui est bien desservi par le ferroviaire ou que j'utilise déjà le train, on augmente les charges de l'autre. En comparaison, on m'avantage. C'est vrai quand moi, industriel, j'utilise le train, mais aucun industriel n'utilise que le train. Donc pour une partie de son activité, ça va jouer un rôle négatif. Mais comme ce service ferroviaire, on ne peut pas le mettre partout, il y a des gens qui vont faire la tronche. Donc là, les Bretons sont dans ce cas-là. Hein ? Donc ça, je voulais le souligner pour vous montrer que en matière de politique des transports, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué parce que manier ces transports pour ces histoires de caractéristiques qu'on a vues précédemment, il n'y a pas un système qui fonctionne de façon universelle. Deux conclusions et demie. Un peu pour voir l'attitude ou la manière dont on peut voir ça sur un plan politique. Hein. Nos hommes politiques, je pense, je le crois fondamentalement, essaient de trouver des remèdes, essaient de faire évoluer les choses dans le bon sens. Ce que l'on constate, c'était le transparent que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'ils essaient, mais ils n'arrivent pas. Hein. Bon. Ce qu'ils oublient, c'est des choses bêtes que je vous ai rappelées. Mais ces choses bêtes que je vous ai rappelées, je suis un peu le seul à le dire. Donc il y a vraiment un problème d'information de ces hommes politiques, au moins. Tous les hommes politiques sont intéressés à une réaction quand ils mettent quelque chose en place. Mais l'échéance politique, elle est de court terme. Et en matière de transport, ce qui va jouer... c'est la localisation des industriels par rapport à l'infrastructure. Si cette localisation aujourd'hui n'est pas bonne, ce n'est pas parce que vous augmentez les prix du carburant que hop, les industriels vont se précipiter ailleurs. Ils vont se déplacer, mais ils vont se déplacer lentement. Donc il y a une inertie de la réaction, mais qui n'est pas une inertie de mauvaise volonté. Hein. C'est plus compliqué que ce que nous dit le calcul économique quand on fait un calcul de sensibilité au prix ou que sais-je. Et ça, c'est embêtant en matière politique. C'est-à-dire qu'il faut parier sur demain. Et parier sur demain, On n'est pas vraiment... Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire. Bien sûr que les politiques ou chacun d'entre nous peut faire quelque chose. C'est ce que j'ai appelé la construction d'une demande. Donc la construction d'une demande, là où le bât blesse en France, c'est qu'on est en place d'une industrie, qui est éparpillée. Donc, par exemple, vous avez quelques axes ferroviaires et bêtement, on a mis les industriels à côté. À côté, c'est-à-dire 3 km de cette infrastructure-là. Donc, si on veut les relier, eh ben, il faut créer une infrastructure. On aurait très bien pu dire, ou on pourrait dire à partir de maintenant, mettons les nouveaux industriels le long des axes sur lesquels il y a déjà des clients, de telle sorte que quand on ira les servir, ce soit plus efficace. Ce que j'appelle la construction d'une demande. Bon. Et surtout, ne pas penser, ne pas croire que l'on changera tout rapidement, c'est plus compliqué que ça. Il y a cette inertie. J'espère avoir à peu près respecté le temps.
Merci beaucoup pour cet exposé, alors qui bouscule évidemment beaucoup de lieux communs et de visions simples ou simplistes concernant les solutions. Hein. Il suffit d'aller prendre son café le matin en bas de chez soi pour avoir des gens qui ont trouvé, eux, des solutions sur le ferroutage, etc. Alors là, bon, ça change un peu. Oui, c'est sûr, ça refroidit effectivement. Alors, j'imagine qu'il y aura des questions ou des demandes d'intervention dans la salle. Arnaud.
En fait, juste pour savoir si tout ceci étant pas appliqué à un pays, comment ça s'applique en Suisse, par exemple, ou des pays qui ont fait le choix assez massivement vers le chemin de fer?
Ça s'applique de la même façon. La Suisse est un pays faux cul. Je sais. Mais il y en aurait. C'est-à-dire que la Suisse a mis en place une politique qui permet d'intercepter le trafic de transit. Mais ça n'a pas d'effet sur le trafic intérieur. Donc oui, alors l'interception, c'était il y a quelques années. C'était de dire les camions qui traversent la Suisse ne font pas plus que 28 tonnes. Chez nous, les pays, les camions font 40 tonnes. Donc un camion fait 30 tonnes, et il passe par les côtés ou il prend le train. Donc ça, c'est une action qui a permis pendant très longtemps de capter le trafic pour le mettre sur le ferroviaire ou de déplacer le trafic sur les côtés. Et cette action a été reconnue ou a été définie comme, alors je ne sais pas exactement le terme, illégale par l'Europe. Et donc maintenant, ils sont revenus là-dessus. Mais ils ont initié un système, mis en place un système qui a pu démarrer pendant une vingtaine d'années sur ces bases-là. Et ce que coûte aujourd'hui l'action suisse, alors c'est des chiffres qui traînent, hein, je n'ai pas pu les vérifier, c'est à peu près pour chaque camion qui traverse la Suisse, la Suisse paye 200 euros pour qu'il passe par le chemin de fer. Nous, on peut faire la même chose, mais 200 euros par je ne sais combien, c'est ce que la Suisse a les moyens de se payer et ce que peut-être nous n'avons pas les moyens de nous payer. Bon, on pourrait prolonger, mais pour moi, c'est vraiment un mauvais exemple que la Suisse. Un bon exemple parce que chez eux, ils ont des résultats. Mais finalement, ils ont des résultats ils ont eu la chance de trouver une formule qui permet de s'adapter bien au trafic de transit. Il y a du trafic de transit chez nous. Mais nous, ce trafic de transit, parce qu'on est dans l'Europe, on n'a pas le droit de retenir des solutions comme celle-là. Pareil pour les franchissements alpins ou que sais-je.
Il y a d'autres demandes, oui.
Oui, en fait, vous avez montré les transports maritimes. Je voulais juste savoir ce qu'il en était au sujet des transports maritimes. Non, en France.
J'ai pas parlé de transports maritimes. Là, c'était vraiment une comparaison sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe. Mais ça s'applique aussi aux transports maritimes comparé à quelque chose. Donc, le transport maritime serait, par construction, vert. C'est-à-dire, il y a un nombre de ports qui est plus limité que, ben, je sais pas, le même service proposable par un transport routier, ferroviaire ou que sais-je. Hein. Et donc, on a des agrégations qui se font autour de certains ports et qui se font à l'avantage des ports les plus importants au détriment des ports les moins importants. Si on répond pour la France, on est très embêté en France de voir l'activité de nos ports régresser. Je pense au Havre, je pense à Fos pour le trafic de conteneurs. On oublie que pas loin de nous, il y a d'autres ports, Anvers, Rotterdam, pour le Nord, et puis Barcelone ou Valence du côté Sud, hein, et que ces ports ont pour caractéristique d'avoir un interland dans lequel il y a plein d'activités. Ce matin, on parlait de Brodel. La France que nous avons construite, je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous promener au Havre. C'est magnifique.
De pas y aller, c'était moche.
Non. Ben vous verrez un port. Un port, c'est un port avec des installations, effectivement, qui sont moches. La ville de est quand même classée à l'UNESCO. Je crois qu'il y a des c'est ça. Hein. Mais ce qui nous intéresse en matière de transport, c'est qu'une fois que vous serez sorti de la ville du port du Havre, vous allez voir des vaches. Des vaches partout, c'est magnifique, c'est très bien, etc. Vous faites le même voyage à Anvers ou à Rotterdam. Le port sera aussi moche. Mais derrière, vous allez voir quoi? Vous allez voir des entrepôts, des usines où on transforme les voitures, des machins, etc. Et vous allez marcher pendant 20 km et vous allez voir ça tout le temps. C'est ça la force d'Anvers. Et cette force-là, elle vient de ce que, alors il y a bien longtemps, Anvers, Rotterdam étaient des places de change. Enfin, c'était le centre du monde, comme dirait Brodel. Et ce centre du monde, il y avait de l'argent. Cet argent, ben, on l'a déployé au fur et à mesure. Ça s'est concrétisé dans l'espace. Et autour du port d'Anvers, on a cette flopée d'entreprises et ainsi de suite, qui font des clients de tout bateau qui s'arrêtent là. Si vous allez au Havre, ben, vous avez du lait. Et puis, vous avez des choses qui viennent d'un petit peu plus loin, de Paris, par exemple. Mais il faut aller à Paris. Donc, les conteneurs, il y a une partie des conteneurs qui viennent de Paris au Havre et une autre partie qui va de Paris vers Anvers. La différence entre ces deux ports, l'un est plus gros que l'autre. Dans le port plus gros, ben, il y a des plus gros bateaux qui ont des capacités d'emport plus importantes. Ça veut dire qu'ils ont un coût plus faible. Il y a plus de bateaux, il y a plus souvent des bateaux. Donc, tous les jours, vous avez un service pour aller à Shanghai, à New York ou ainsi de suite. Vous allez au Havre. Ben, y a moins de bateaux. Donc, vous avez tous les trois jours. Enfin, bon, tout ça, c'est des mécanismes qui font ça. C'est tellement important, ce mécanisme, que le plus grand port d'Italie, c'est où? C'est Anvers. C'est Anvers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de l'efficacité de la Suisse, on dit bravo, mais ils payent quoi? Ils payent des conteneurs, du transport de conteneurs, qui partent de la plaine du Pô pour aller embarquer à Anvers et ensuite partir vers la Chine. Le chemin le plus court au plan géographique n'est pas par là. Le chemin économique, c'est celui-là. Bon, tout ça, c'est une comparaison des coûts et une construction. Donc le fautif là-dedans, hein, c'est celui qui a construit la France pendant longtemps, il s'appelle Colbert, il s'appelle des noms comme ça, mais c'est inscrit dans la durée, et c'est vraiment une composante qui est importante dans cette affaire-là.
Et déjà pour des transports inter-France, des transports entre les villes de France.
Alors oui, bah pour les villes de France, entre les villes de France, alors je vais prendre juste
parce
le transport.
On a pas mal de ports en France.
Oui, mais il n'y a pas de transport maritime entre alors, il y a un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de transport maritime entre les ports français. Il y a du... entre... Enfin, avec Ajaccio, machin, mais... Mais qu'on a vu, justement, plus sur le déclin des ports avec le rôle, qu'on en parlait tout à l'heure à midi, hein, avec le rôle des dockers et des grèves et des... et donc, on attribue beaucoup à ces syndicats les problèmes. Moi, je pense beaucoup à ce que je vous ai expliqué auparavant. Et donc, ce que je crois, c'est que, je ne vais pas nier l'existence de ces grèves qu'on connaît aussi pour le ferroviaire, etc. Mais on est en présence d'un système qui est très puissant en Allemagne, très faible, en Allemagne, aux Pays-Bas, très faible chez nous. Et finalement, ce système, le même système, les grèves, là-bas aussi, ils faisaient grève, et bien ici, ça a catalysé le déclin.
Vous avez parlé de système implacable de transport, on a appris beaucoup de choses. Vous n'avez pas parlé des critères qui peuvent quand même justifier qu'on prenne un transport, soit le routier, soit le ferroviaire, c'est bien la pollution.
Alors, oui, mais aujourd'hui, ce que l'État fait pour qu'on change de mode, c'est rien. Voilà, des choses qu'il peut faire, c'était par exemple cette action de taxe. Et cette action, elle est compliquée. Et donc, on a des réactions. Oui. Ces réactions, on les interprète. On dit, tiens, c'est poujadiste, machin, c'est breton qui n'ont rien compris. Non, mais je vous avais entendu que je ne partage pas ce point de vue.
Il parlait de péninsule, là, les bretons. Il disait qu'ils sont dans une péninsule, justement, ils ont des difficultés.
Ce n'est pas les seuls. Mais on ne leur reconnaît pas ça. Et on fait comme si le transport ferroviaire était des systèmes substituables au même coût, c'est-à-dire qu'ils font les mêmes choses, les mêmes services, au même prix, au même temps, alors que c'est faux. Et donc, ça, c'est propagé par les courbes que j'ai rayées sauvagement, et puis par cette idée qu'on a collectivement que l'un est plus efficace que l'autre, etc., mais qui est grossière. Mais en même temps, elle est omniprésente.
Donc, ce que vous préconisez, c'est de changer les infrastructures, en fait.
Ce que je préconise, c'est de savoir utiliser les solutions de transport pour ce qu'elles savent faire. D'ailleurs, le système ferroviaire est redoutablement efficace, mais pas pour tout le monde. Donc, utilisons-le massivement pour les personnes, les entreprises, les régions pour lesquelles c'est quelque chose qui marche bien. Et puis, mettons en place d'autres solutions pour les autres cas. Alors que là, on est dans une position qui est un petit peu universelle. Cette taxe, où c'est quand on parle d'augmentation du prix du carburant, c'est quelque chose qui se fait à l'échelle, sur tout le territoire, de façon indifférenciée. Et c'est là que le bât blesse. Si vous touchez trop le coût du transport, mettons, vous doubliez le coût du transport. Mes entreprises qui sont tout à l'heure et qui vont être je prends l'exemple de Michelin. Michelin, à Clermont-Ferrand, il pourra utiliser le train pour aller à Paris quand il y aura un train. Mais pour aller à Lyon, pour aller ailleurs, etc., il est condamné à prendre la route parce qu'il n'a pas les quantités, parce qu'il n'a pas la fréquence. Donc il y a un moment, si vous agissez trop sur ce levier, l'économie de l'entreprise est fragilisée. Elle s'interroge sur sa localisation. Elle va regarder un peu autour d'elle. Dire Lyon, c'est effectivement mieux comme localisation pour eux, mais elle ne va pas regarder que Lyon. Elle va regarder Casablanca, elle va regarder Shanghai. Donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à isoler le transport. Et le transport, en tout cas pour les marchandises, il est complètement interconnecté avec l'économie mondiale. Et on ne peut pas je vais essayer de vous en...
Oui, bonjour. Là, vous avez essentiellement parlé du fret. Et j'avais une question, c'était comment ça se passe pour le transport public, on va dire, pour les gens. Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on a les mêmes critères? Quelle répartition? Et enfin, limite une autre question, c'est quoi la proportion fret, transport de personnes en ferroviaire?
Je pourrais botter en touche, comme tout à l'heure, en disant je suis vraiment spécialisé sur les marchandises. D'accord. Je vais quand même vous dire un petit mot sur les voyageurs, mais je ne suis pas spécialisé sur les voyageurs. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'étais dans une émission et on parlait d'abord de TGV. Vous savez, ce projet de TGV où on disait on va construire des lignes partout. Et j'avais réagi à l'époque... en disant, mais ce qui fait l'intérêt d'une ligne de TGV, c'est le nombre des clients qui vont l'emprunter. Et j'ai beau chercher, ce nombre n'est pas constant partout. Il y a une fréquentation qui... Et donc, je ne comprenais pas qu'on puisse dire créons des lignes de TGV, ça va nous résoudre le... Bon, vous avez constaté peut-être que c'était la politique qui avait été mise en place, comment dire, une politique de relance, on va construire des lignes de TGV, et bon, on l'a abandonné depuis. Personnellement, je n'y croyais pas, et donc tant mieux. Ce que je voulais souligner, c'est que pour avoir dit ça à la radio, il y a des tas de gens qui m'ont critiqué. Bon, donc, dans une certaine manière, ces mécanismes que je disais sont les mêmes. Alors après, il y a ce qui fait la différence entre un voyageur et une marchandise, qui, elle, est importante. Un voyageur, il passe tout seul d'un mode de transport à un autre. Ce n'est pas très compliqué de faire ça, hein, vous l'avez tous fait. Ma grand-mère le fait moins, c'est plus compliqué pour elle. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. Pour une marchandise, c'est plus compliqué. Il faut des engins, il faut des lieux particuliers. Un train arrêté en race campagne, vous pouvez descendre. Un train de marchandises arrêté en race campagne, ben vous ne pouvez pas faire la même chose. Donc ça, c'est vraiment des différences structurelles entre les deux systèmes. Et aujourd'hui, en France, le système ferroviaire est plus utilisé pour les voyageurs que pour les marchandises, ce qui aussi pose d'autres problèmes. Mais dans certains coins du monde, le système ferroviaire est utilisé exclusivement pour les marchandises, ou quasi exclusivement pour les marchandises. C'est le cas des États-Unis.
Donc, merci pour cet exposé ainsi que pour les réponses apportées aux différentes questions. Donc, je crois que dans le programme, il est prévu une petite pause technique, physiologique. C'est ça ? Et signature, voilà.
Dans la signature, c'est dehors. Dehors, mais sur une table, s'il vous plaît.